Les rues de Tanger sont si pentues qu'on dirait des escaliers. Les gravirs est épuisant, les descendre est dangereux. Impossible de prendre des notes en marchant. Coca-Cola, Coca-Cola, téléboutique, GSM Youssef, Pension Mauritania, Falafel Cappuccino, Cinéma Volubilis, Mosquée, Coca-Cola encore, Cybercafé, Coca-Cola, Coca-Cola. Entre les barbus en robe, les serveurs élimés, les dealers édentés, les scooters rutilants d'une jeunesse dorée, quelques mendiants débattent gravement sous des rafales d'épices et de poissons, et une vieille dame vend des Kleenex à la pièce. Quand la nuit tombe à Tanger, les hommes commencent à se tenir la main. Aujourd'hui, ce sont les philosophes Barbara Cassin et Ali Ben Mahlouf qui nous accompagnent. Barbara Cassin a notamment supervisé la rédaction du Monumental et Fondamental, vocabulaire européen de la philosophie, un dictionnaire des intraduisibles, dont Ali Ben Mahlouf prépare en ce moment une édition arabe. Ali Ben Mahlouf, qui est entre autres, lui, l'auteur de l'introduction au livre de la religion d'Al-Farabi, titulé « Philosophie à Bagdad au Xe siècle » dans la collection Point Essai ou Seuil, et d'un vocabulaire d'Averroès paru aux éditions Ellipse. Bonjour à tous les deux. On va commencer avec vous, Barbara Cassin. Vous êtes, j'allais dire, l'auteur. D'une certaine manière, on pourrait le dire, vous avez supervisé un dictionnaire absolument stupéfiant. C'est un bonheur de... Enfin, c'est une galère de l'avoir parce qu'il est extrêmement lourd.
Oui.
Mais c'est un bonheur de l'avoir sur les genoux et de l'ouvrir au hasard. C'est le vocabulaire européen des philosophies. Autrement appelé, le dictionnaire des intraduisibles. Vu de l'extérieur, c'est une contradiction dans les termes. Qu'est-ce que vous désignez par intraduisible? Est-ce que vous pouvez nous traduire ce mot, Barbara Cassin?
Mais oui, justement, ça va déjà exemplifier la chose, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de traduire l'intraduisible.
Intraduisible. Vous dire l'intraduisible, c'est ce qu'on n'arrête pas de traduire. En
voilà.
Fait.
Un intraduisible, c'est pas ce qu'on ne traduit pas, c'est ce qu'on ne cesse pas de traduire. Ou alors, si vous voulez être un peu plus lacanien, vous pouvez mettre ce qu'on ne cesse pas de, parenthèse, ne pas. Fermez la parenthèse, traduire. Mais ça veut quand même dire que intraduisible, c'est d'abord et avant tout un symptôme de différence des langues. Et c'est en tant que tel qu'on s'y est attelé.
Alors il faut oui. Préciser la méthode. Hein. Vous prenez un terme, vous le prenez d'ailleurs dans une langue comme dans l'autre. Au lieu de prendre des enchantements, vous prenez des sangagnos. Vous prenez un terme dans une langue ou dans une autre, et puis vous donnez ces corrélats. On pourrait parler d'un dictionnaire des synonymes, finalement, polyglotte.
Oui, on pourrait dire ça, sauf que c'est pas tout à fait dans une langue ou dans une autre. D'abord parce que on prend des symptômes là où ils sont. D'abord, c'est un dictionnaire de philosophie, de philosophe, même s'il faut entendre la philosophie au sens large. Par exemple, les manières de dire bonjour, ça peut être un problème philosophique. C'est pas la même chose de dire shalom, salam, et de dire kairé, de dire la paix soit avec toi, ou de
ou
dire
porte-toi
jouis,
bien, ou jouis,
réjouis-toi. Ou bien, valet, porte-toi bien. Mmh. Bon, mais c'est pas la même chose, et en même temps, ça engage la pensée et le rapport à l'autre. Donc c'est aussi de la philosophie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on prend le terme là où il est, là où il apparaît, dans sa différence, dans sa singularité. Des engagnos, ça apparaît dans sa singularité, dans un certain nombre de textes espagnols, de même que, je ne sais pas, disegno apparaît en italien. Et pour dire à la fois dessin EIN et dessin IN, c'est le même mot qui veut, dans Racine, encore dire le double, qui a encore le double sens.
Quel dessin m'amène cacher ces dessins que voilà. Je ne saurais voir.
Absolument.
Alors, vous avez, Barbara Cassin, vous partez aussi du principe donc que les mots font valoir une différence. Au départ, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans la différence. C'est une démarche assez deleuzienne, finalement, qui consiste à penser la différence comme telle. Or, la façon que vous avez de penser la différence comme telle, c'est de faire valoir un génie propre à chaque langue.
Oui.
C'est-à-dire que c'est à partir d'une identité, j'allais dire fragmentaire, mais disons particulière, un lieu particulier, que vous faites valoir une différence.
Oui, j'ai envie de réagir sur beaucoup de termes que vous venez d'employer. D'abord, Deleuze. Bon. Oui, c'est absolument un dessin, IN et dessin, IN, de déterritorialisation.
C'est Deleuze, c'est un mot deleuzien, il faut le dire.
On est en plein dans Deleuze, là. C'est-à-dire que c'est à partir d'une autre langue qu'on voit la sienne. Et il faut au moins deux langues pour en parler une. Bon, ça, c'est ce que j'ai appris de ce dictionnaire. Donc, on se situe en plein dans la différence des langues, c'est-à-dire dans la déterritorialisation des langues les unes par les autres.
C'est-à-dire une expérience de l'altérité.
Oui. Le deuxième mot qui me fait réagir, c'est génie. Pour autant, je n'ai pas envie de dire qu'on se situe dans le génie des langues. Je pense que c'est un très encombrant problème, le génie des langues.
C'est à dessein que j'employais ce mot.
Dessein ?
Oui.
C'est un dessein que je saurais voir. Le génie, là, pour moi, renvoie au romantisme allemand, et au bout du romantisme allemand, il y a Heidegger et ce que Jean-Pierre Lefebvre, par exemple, appelle nationalisme ontologique. Le génie des langues, c'est aussi une certaine hiérarchie possible des langues, meilleures les unes que les autres, c'est-à-dire plus proches de l'être, philosophiquement plus proches de l'être. Et donc, le grec et l'allemand, plus grec encore que le grec. Et l'intraduisible, dans ce cas, c'est un intraduisible sacralisé, auquel il ne faut pas toucher parce que il nous montre la singularité d'être d'une langue philosophante.
Mais est-ce que l'idée d'une supériorité d'une langue sur l'autre n'est pas un dommage collatéral de l'idée de différence ? Est-ce qu'en somme, quand on pose une différence irréductible entre les langages, est-ce qu'en quand on marque, si vous voulez, le fait que, je crois que c'est implicitement à l'œuvre dans votre travail, quand on marque le fait que les mots changent de sens selon le contexte, c'est-à-dire le langage où ils se trouvent, et que par-delà le... Disons qu'il n'y a, pas de... La signification ne transcende pas les mots employés pour la désigner, mais elle est inscriptible dans un lieu, un moment, un espace, un langage. Est-ce que quand on part de ce principe-là et qu'on fait valoir donc la différence comme telle, on ne s'expose pas aussi au discours de ceux qui disent eh ben, l'allemand c'est mieux que le français pour faire de la philo
Eh ben on s'y expose, mais on n'en veut pas. C'est-à-dire que ce dictionnaire est construit contre. Il est construit contre deux choses. Il a au fond deux ennemis. Ni globish, c'est-à-dire ni global English, une langue de communication et ça suffit, et ni nationalisme ontologique, c'est-à-dire une supériorité par rapport à l'être d'une langue sur l'autre. L'idée de ce dictionnaire, c'est qu'on philosophe en mots, en langue avec un S, et que c'est ce pluriel qui est intéressant. Et que ce pluriel, si vous voulez, on est humboldtien. Ça ne veut pas dire que Heidegger ne l'était pas.
Il faut rappeler aux quelques auditeurs de France Culture qui ignorent qui était Humboldt, qui il était, Barbara
oui.
Cassin.
Bon, linguiste, grand linguiste allemand post-romantique, donc du 19e, qui a écrit par exemple sur les Basques, et sur le premier à avoir écrit sur la langue basque. C'est aussi un grand traducteur. Peut-être que c'est là l'originalité du projet lié aux pratiques humboldtiennes de la traduction. Humboldt dit « L'Agamemnon, c'est intraduisible. L'Agamemnon d'Eschyle,
hein,
c'est intraduisible. » Et il ajoute aussitôt « Eh bien, justement, parce que c'est intraduisible, parce que les langues sont irréductiblement multiples, on n'a jamais rencontré le langage. » On ne rencontre que les langues. Et chaque langue accroît pour nous la richesse du monde. L'idée de ce dictionnaire, c'est qu'on va accroître la richesse du monde, c'est-à-dire on va accroître notre perception de la richesse du monde en comparant les langues les unes avec les autres. Et s'il s'inscrit dans une lignée, c'est celle du vocabulaire indo-européen, des institutions indo-européennes de Benveniste. C'est-à-dire que c'est vraiment pluraliste et comparatiste.
Alors Benveniste, hein, c'est celui qui posait que par exemple, qui posait, on va pas s'embarquer maintenant sur Benveniste, mais enfin rappeler peut-être aussi très rapidement que Benveniste, par exemple, expliquait que les 10 genres les plus généraux de l'être, selon Aristote, étaient l'effet de la grammaire grecque. Plus que la grammaire grecque ne s'était conformée à une intuition ontologique. Mais on ne va pas s'embarquer maintenant, Barbara Cassin, dans ce débat qui pourtant est passionnant. Il faudra qu'un jour, d'ailleurs, les chemins de la connaissance consacrent une semaine à Aristote. Je me tourne vers vous, Ali Ben Mahlouf, pour mille raisons. D'abord parce que vous êtes spécialiste d'Averroès et d'Al-Farabi, et on va en parler. Mais avant cela, parce que vous avez entrepris de traduire en arabe le dictionnaire des intraduisibles. Deux choses. Un, est-ce que ça n'est pas utopique ? Deux, est-ce qu'on peut traduire ce dictionnaire en arabe sans y ajouter des chapitres supplémentaires ?
Pour le premier point, je pense que les utopies font bon ménage avec les chicaneries juridiques et linguistiques. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un ensemble de dispositifs à mettre en place pour faire venir dans la langue arabe ce travail extraordinaire qui a mis plus de 12 à 15 ans à se réaliser. Et l'idée d'avoir à traduire tout ce dictionnaire peut paraître à première vue utopique, mais il y a tout de suite une compensation à cette utopie, c'est que se met en place tout un dispositif pour cette réalisation. Et c'est les chicaneries. C'est un petit peu, si vous voulez, comme la construction européenne à Bruxelles. Il y a les chicaneries administratives et en même temps l'utopie.
C'est une autre utopie.
L'utopie du projet. Voilà. Et là, il est vrai que fort heureusement, j'ai pu avoir et mobiliser des collègues qui ont tous une pratique de philosophie dans le monde arabe, tunisien, algérien, marocain et au-delà. Ils ont cru au projet. Ça, c'était une première phase. La seconde phase, ça a été de trouver un financement pour cette traduction. Mais tout cela, si vous voulez, tous ces éléments matériels, si vous voulez, je voudrais pas m'apesantir dessus parce qu'effectivement...
Non, mais juste une question quand même.
Oui.
Est-ce que les contributeurs, oui, à la traduction que vous allez proposer du dictionnaire des intraduisibles,
oui,
sont également des spécialistes des chapitres qui sont traités par des spécialistes dans ce dictionnaire. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, j'ai veillé à faire une répartition des articles selon les dispositions ou, disons, tendances des différents praticiens de la philosophie, parce que ce sont des praticiens qui, chaque semaine, se mettent devant leurs étudiants pour exposer tel ou tel aspect de la philosophie. Tel domaine dit académique de la philosophie, si bien que pour, par exemple, la philosophie politique, bien évidemment, je l'ai donné à quelqu'un qui a la pratique de ces notions et qui, bien évidemment, était à même de pouvoir le traduire, je dirais, avec aisance. Vous savez bien, les actions qui sont faites avec aisance, ce sont les actions qui sont faites selon la compétence. Et surtout, quand il y a l'aisance et la compétence, cela s'accompagne de plaisir. Et tous mes traducteurs me disent
qu'ils
ont...
Vous êtes très platonicien, au fond, Ali Ben Martin. Aisance, compétence et plaisir, tout ça est assez lié chez Platon. On va en parler d'ailleurs.
Oui, si vous voulez, ma foi, j'accepte votre remarque. En tous les cas, j'ai une équipe qui croit en ce projet, qui traduit très vite. Et l'idée, si vous voulez, pour vous répondre plus au fond maintenant, c'est que la langue arabe ne peut s'enrichir elle-même qu'en traduisant beaucoup. La philosophie ne s'est pas toujours très bien portée, pour ce qui est du Maroc en particulier, puisqu'elle ne revit bien que depuis 1998-1999, depuis une petite dizaine d'années.
Pourquoi cette date ?
Parce que pendant longtemps, les grandes universités qui ont été créées au Maroc dans les années 80 ont été créées sans département de philosophie, mais avec un département d'études islamiques. Et la philosophie a été complètement écartée et n'a plus existé que dans les anciens départements de Fès et de Rabat. Or, ce à quoi on assiste au Maroc depuis une dizaine d'années, c'est de nouveau une création de département de philosophie. Figurez-vous qu'il y a plus de 1000 étudiants en première année à l'université de Marrakech, alors que le département n'a été créé que depuis 6-7 ans maintenant. Et il y a actuellement un réel engouement, et je suis très content de pouvoir accompagner cet engouement de la formation en philosophie, d'outils tels que ce dictionnaire, et d'arriver à le donner comme outil de travail. Et d'ailleurs, il y a une nécessité et une urgence, parce que pendant longtemps, ces outils ont manqué. Et ce travail est très attendu dans sa façon critique d'aborder les choses. Vous vous rendez compte, tout un savoir européen en philosophie sédimenté qui arrive d'un seul coup dans une langue, la langue arabe, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et on aurait mis 30 ans... Oui, c'est un dictionnaire dont on attend l'existence, quand bien même on ne parlerait pas un mot d'arabe.
Oui, tout à fait. Et puis, si vous voulez, on ne traduit pas simplement la philosophie française ou la philosophie anglaise ou la philosophie allemande. On traduit ainsi plusieurs langues et du coup plusieurs aspects ou manières de voir le monde, comme disait Barbara Cassin tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en réalité, en enrichissant la langue arabe par des effets de traduction, parce que mes traducteurs me montrent comment ils tordent joliment et gentiment la langue pour coïncider le plus possible avec le concept en face. Par exemple, je cite le concept de communautarien et qui, du coup, doit, pour le praticien de l'arabe lui-même, donner lieu à une innovation. C'est ça, enrichir la langue. Et ce travail, ils le font avec bonheur. Écoutez, vraiment, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire et ne pas dire qu'il faut lancer des programmes pour faire. Et les gens sont en train de faire autour de moi ce dictionnaire. Je suis très content et très honoré de la confiance que Barbara Cassin a mise en moi pour diriger scientifiquement ce projet pour la langue arabe. Et très heureux que des fondations comme la fondation du roi Abdelaziz et la fondation de l'ONA contribuent à payer ces traducteurs, puisque tout le monde sait maintenant, du moins pour les institutions marocaines, que l'accès à l'autre, vous avez parlé d'expérience d'altérité, devient quelque chose qui est, je dirais, fonctionnement fondamental, élémentaire au sens philosophique du terme. On ne peut pas simplement se contenter d'électrifier le rural, de faire venir l'eau ici ou là, mais il faut aussi enrichir le capital humain. Et si vous voulez, la philosophie est devenue, en raison de tout les troubles idéologiques ici ou là, ou les fièvres religieuses ici ou là, est devenu précisément un élément à même de pouvoir permettre d'accéder à la pensée critique.
Alors, nous... précisément, Ali Ben Mahlouf, est-ce que, Barbara Cassin, est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ce dictionnaire, qui est un exercice constant de décentrement pour son lecteur, décentrement systématique, c'est-à-dire que, en fait, ce dictionnaire a un adversaire, c'est le sentiment qu'on peut avoir que notre langue est la vraie langue et qu'en somme, les autres sont des langues périphériques. C'est un peu comme le type qui dirait, mais enfin, ils peuvent pas parler français comme tout le monde, si vous voulez. Ce dictionnaire, qui s'en prend peut-être à un des tropismes les plus fondamentaux, à une des bêtises les plus fondamentales de l'homme, qui est le sentiment d'être au centre. Est-ce que ce dictionnaire, vous l'avez conçu aussi au départ comme un geste politique, ou est-ce que vous vous êtes aperçu à son terme qu'il était également une démarche politique, comme ce que dit Ali Ben Mahlouf le laisse entendre?
Pour moi, il a été un geste politique, c'était le même...
Dès le début.
Mais oui, c'est le seul geste politique dont j'étais capable, tout simplement, en tant que philosophe.
Vous pouviez voter.
Et par rapport à l'Europe, ça ne fait pas grand effet.
C'est-à-dire?
Justement, on peut se placer sous l'égide de la phrase de Umberto Eco, qui est peut-être apocryphe d'ailleurs, « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». Peut-être qu'il faut maintenant dire « La langue du monde, c'est la traduction », dans la mesure où ce dictionnaire désintraduisible va être traduit. Mais « La langue de l'Europe, c'est la traduction », ça veut dire que, justement, l'idée, c'est que l'Europe ne soit pas « globish plus dialecte », hein, « global English », c'est-à-dire une langue de communication qui sert à faire les dossiers à Bruxelles et à demander un café de Tamanra Set à Pékin, et à côté, nos langues maternelles, y compris l'anglais, l'anglais de Shakespeare et de Joyce, mais l'allemand, le français...
C'est-à-dire l'Europe, ni supranation, ni région, en fait.
Oui, l'Europe, via ses langues, ça me paraît essentiel. S'il y avait un message à faire passer pour la future présidence française, ça serait qu'on s'occupe de la traduction et qu'on s'occupe véritablement du multilinguisme.
Concrètement, qu'on oriente la construction européenne dans le sens des nations européennes ou d'une nation européenne?
C'est pas là le point pour moi. Hein?
C'est la version politique, pour le coup explicitement politique, de la démarche que vous semblez mettre en œuvre.
Non. Une nation européenne, ça veut dire l'Europe pour moi. L'Europe est peut-être composée des nations européennes. Et il peut y avoir une langue européenne, à savoir la traduction, et pas le globish, qui soit composé de toutes les langues européennes. Donc, là, je fais une synthèse aisée, si vous voulez, entre nation au singulier et nation au pluriel.
Et ça fait une troisième partie. Barbara Cassin, le globish, donc le global English. Vous, vous en prenez donc à cette langue finalement uniforme. Est-ce que vous reprendriez... Alors, c'est paradoxal dans la mesure où le globish, c'est un instrument de communication.
Oui.
Le dictionnaire, vous appelez à sa traduction, vous souhaitez qu'il se répande, vous souhaitez qu'on en discute, qu'on en débatte. Quelle place faites-vous dans cette démarche à la notion de communication?
Pratiquement aucune.
C'est paradoxal quand même. Dans votre affaire, puisque c'est quand même un dictionnaire qui est fait pour être transmis.
C'est un dictionnaire qui est fait pour être lu et pour être même traduit. Donc, transmis, bien sûr. Mais entre transmission et communication, il y a encore une marge. L'idée, pour moi, c'est que c'est pas la peine de commencer ce dictionnaire si on pense que le langage est un moyen de communication, est un outil de communication. Si c'est ça, on n'a qu'à parler tous anglais, tous globish. Et ça, c'est une langue de transmission internationale, c'est une langue de communication, ça suffit. Si le langage est un moyen de communication, qu'est-ce qu'on va s'embêter à en parler plusieurs ? Bon, donc l'idée, c'est que le langage fait autre chose que communiquer. Et c'est en ce sens qu'il y a une pluralité des langues et une pluralité de construction du monde. Qu'est-ce que fait le langage ? Il performe. Moi, je donne tout intérêt et tout prix à la notion de performance depuis mes premiers travaux sur la sophistique grecque, qui sont des travaux
qui étaient effectivement dans l'ordre de la performance ou du performatif, puisqu'il n'y avait de vérité que ce qui l'emportait sur l'autre,
enfin,
en somme.
Plutôt, l'idée c'est que au lieu que, comme en bonne ontologie parménidéo heideggerienne, disons, en bonne philosophie, dans le bon courant majoritaire de la philosophie, l'être, l'homme doit le dire. C'est sa tâche. Eh bien, la sophistique montre, en lisant par exemple en regardant la manière dont les philosophes disent l'être, que les philosophes fabriquent l'être qu'ils disent. Et pour Gorgias, on pourrait résumer les choses comme ça, l'être est un effet de dire. Bon. Donc l'être est un effet de dire, le monde...
Ce qu'on pourrait comprendre aujourd'hui avec des phénomènes contemporains, par exemple sur Internet ou Internêtre, qui est cette façon qu'on aurait de présenter une réalité, et, peu importe que ce soit vrai ou non d'ailleurs, ça devient vérité à partir du moment où c'est présenté comme tel.
Oui, on peut dire ça comme ça, mais moi je serais plus positive, si vous voulez. Je pense que, plus positive ou plus négative, je crois qu'il n'y a pas de vérité, je le crois volontiers. Je ne suis pas platonicienne, en l'occurrence. Je pense qu'il y a du plus vrai. Et du plus vrai à un moment donné. Du meilleur pour. Là, je suis protagoréenne et vraiment relativiste au
vous
sens
êtes,
dur
faut, il faut
du terme.
Rappeler rapidement que Protagoras est celui qu'on résume hâtivement, mais on va s'en contenter aujourd'hui.
L'homme est la mesure
un
de
adage,
toute chose.
Voilà. L'homme est la mesure de toute chose. À quoi Platon répond ? Mais non, Dieu est la mesure de toute chose.
Voilà.
Ali Ben Makhlouf, sur cette idée de communication, est-ce que vous partagez ce sentiment finalement qu'il y a quelque chose de, comme dirait Nietzsche, de grégaire dans la communication, dans la réduction du langage à sa simple fonction communicatrice ?
Il est vrai qu'on peut voir la communication comme quelque chose qui réifie le sens, qui réifie complètement les signes.
Qui le chosifie, quoi.
Voilà. Et du coup, qui rend le sens une chose et totalement pétrifié. Alors qu'il est vrai, pour ma part, ce dictionnaire et cette idée que tout en étant une circulation entre plusieurs langues européennes, qu'il puisse arriver dans la langue arabe, c'est pour être un outil de formation, d'apprentissage et de compréhension. Et je substituerais volontiers la notion
vous
de compréhension.
Vous diriez compréhension plus qu'explication.
Je dirais compréhension.
Et pas plus, communication, en tout cas.
En tout cas, compréhension plus que communication, parce que comprendre, c'est cette idée qu'on peut reconnaître autre chose, voire se reconnaître en autre chose, et après rectifier sa reconnaissance, parce que ça peut être un élément de projection de soi, mais en tous les cas, la compréhension au-delà de la réification des significations, et il est vrai que la communication peut participer à cette réification des significations.
Mais pardonnez-moi pourtant, tous les deux, vous êtes professeurs.
On n'arrête pas de communiquer.
Mais déjà, on n'arrête pas de communiquer, on le fait dans des langages d'ailleurs qui sont plus intelligibles pour nous qui avons la pratique de ces langages, bien souvent que pour ceux à qui on destine aussi ces émissions, donc il faut toujours se faire attention quand on fait par exemple de la radio à essayer d'être eh bien transmissible justement, de pouvoir être, de se traduire soi-même. Quand on est professeur, quand on fait passer une information, qu'on s'adresse à un public divers, ondoyant, varié, aux compétences diverses, on a à cœur également de transmettre une forme de dénominateur commun qui permette à tout le monde d'accéder tout simplement au savoir qu'on essaie de faire passer. L'idée même de communication, elle est un point de départ, elle est irremplaçable. Quand on parle implicitement, les mots qu'on emploie sont lestés d'un sens qu'on ne discute pas. Sinon, on s'arrêterait à chacun des mots qu'on emploie et ce serait du Derrida, Barbara Cassin.
J'ai rien contre Derrida, moi. Mais non, je crois que simplement, quand on enseigne, Il ne s'agit pas d'abord de communiquer, il s'agit d'abord de faire comprendre. Et il s'agit de faire comprendre des choses qui ne sont pas si simples que ça, et de les rendre simples. Alors, si vous avez envie d'appeler ça communication, pourquoi pas? Mais, et très bien, on va simplement, comme vous dites, changer un peu le sens des mots. Parce que pour moi, communiquer, ça veut plutôt dire ce qu'on fait, justement, quand on demande en globiche, je reviens à cet exemple qui pour moi est l'exemple clé de la communication, quand on demande un café en globiche, justement, de Taman Rastet à Pékin, pourquoi pas, c'est joli comme mot. Mm-hmm. Bon, ça, on communique. Mais faire comprendre, c'est autre chose.
Est-ce que le métissage, selon vous, Barbara Cassin, est un remède au globiche?
Métissage,
je vous pose
j'ai envie
cette
de
question,
le retraduire tout de suite.
Je vous pose cette question, tout, en vérité, pour être tout à fait honnête avec vous, je vous pose cette question parce que on peut avoir le sentiment aussi que vous vous opposez au globiche au motif que ça uniformise finalement le monde.
Oui.
On pourrait avoir le sentiment que le destin même du métissage, c'est l'uniformité. Certes, une uniformité qui n'est plus blanche ou qui n'est plus noire, etc., qui est une uniformité qui est également un mélange, mais c'est quand même une uniformité. Est-ce que finalement l'uniformisation du monde ne passe pas par son métissage ?
Pour moi, le métissage, ça n'est pas devenir tous de la même couleur. Le métissage, c'est d'abord un mélange entre des couleurs différentes. Donc, c'est une action, le métissage. Et je trouve que la traduction peut, en un sens, assez bien, être comparée à un métissage. C'est-à-dire que c'est un métissage qui laisse comprendre, entendre, voir, percevoir... les couleurs différentes en tant que couleurs différentes, les langues différentes en tant que langues différentes, et puis qui montrent comment ça se passe quand il y a des mélanges qui ne sont pas du tout au même niveau, au même degré. Tous les métis ne se ressemblent pas, bien au contraire. Et il me semble que la traduction qui consiste à transformer la langue d'arrivée, ça c'est un métissage dans un sens absolument magnifique, c'est-à-dire un sens d'évolution nouvelle et d'inventivité. Bon, moi, je suis pour l'invention. Si le métissage, comme la traduction, est une invention, je suis pour le métissage.
Et puis, métissage, c'est le tissage, et c'est le même mot que pour le texte. Hein. C'est la même étymologie, en tout cas. Ali Ben Mahlouf, un mot pour finir ?
Oui, cette contexture me va tout à fait, cette métaphore du tissage. Il est vrai que tout à l'heure, Barbara parlait du filet dans lequel on prend les mots. Je suis tout à fait pour cette idée du filet, du tissage et de la couleur des pensées. Je pense qu'effectivement les pensées ont une coloration, une färbung, comme disait Frege, et cette coloration n'a pas le même effet que le lessivage, si vous voulez, au sens physique du terme, au sens où on mêlerait les couleurs physiquement. Les pensées ont une couleur, en un sens, analogue, qui ne reprend pas l'uniformité de toutes les couleurs mises ensemble.
Et ben on va terminer sur la couleur des pensées. C'est trop joli. Merci à tous les deux. Merci d'être venus. Je rappelle, Barbara Cassin, que vous avez dirigé le vocabulaire européen de la philosophie, un dictionnaire des intraduisibles, dictionnaire dont vous supervisez la traduction en arabe, Ali Ben Mahlouf, qui est par ailleurs et notamment l'auteur d'un vocabulaire d'Averroès paru chez Ellipse dans l'excellente collection de Jean-Pierre Zarader, ainsi que d'une introduction au livre de la religion d'Al-Farabi dans un ouvrage collectif paru dans la collection .sc intitulé « Philosopher à Bagdad au Xe siècle ».